Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
16h35, c'est l'heure du goûter, donc, et comme chaque jour à cette heure-ci sur BFM Business, votre Crunch Crypto, le club BFM Crypto, ils viennent de nous rejoindre, même en ce cœur de mois de juillet, ils sont sur le pont. William O'Rourke, bonjour William.
Bonjour.
Bienvenue, associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat, avocat au barreau de Paris depuis quelques années, depuis 2018, j'ai regardé tout votre CV. On vous retrouvera dans un instant pour parler de la fiscalité sur les cryptos et des questions très très pratiques que les investisseurs peuvent se poser. Vous apporterez un maximum de réponses, William. Lilian Aliaga vient aussi de nous rejoindre, rédacteur pour Crypto. Salut Lilian.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Et puis nos deux spécialistes du trading et de l'analyse technique. Comme chaque mardi, Vincent Gann, Xavier Fono. Bonjour messieurs.
Bonjour Guillaume.
Salut Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Vincent Gann, analyste technique indépendant, Xavier Fono, pour Interactive Trading. Vincent, quelle perspective sur les cryptos et notamment sur le Bitcoin avec un marché particulier, puisque l'euro tout à l'heure, c'est quand même important, une première depuis 20 ans, l'euro a touché la parité pure et parfaite avec le dollar. Qu'est-ce que ça vous inspire sur l'impact pour les cryptos et le potentiel notamment du Bitcoin? Quel regard portez-vous sur ça?
Alors oui, je vais vous dire un mot, cher Guillaume, sur le lien entre le cours de l'euro et le cours du Bitcoin. Bon, concrètement, pour rappeler aux auditeurs, le cours du Bitcoin est stable depuis 2-3 semaines, à l'image du marché action. Il est stable pour ceux qui suivent son prix en dollars entre 19 000 et 22 000 dollars. Alors j'arrondis, hein, pardonnez-moi. Il est stable à l'image du marché action. Alors les actifs risqués qui ne baissent plus dans cette phase-là, tout le monde s'interroge. S'agit-il d'une phase de transition latérale avant de poursuivre le bear market? Car oui, nous sommes en bear market depuis le début de l'année. Ou est-ce qu'on tente quelque chose, la création d'un socle pour enfin avoir un rebond technique qui donnerait de l'air à tout le monde, à tous les investisseurs et les traders? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, je vais utiliser la perche que vous m'avez tendue. Le cours de l'euro-dollar, il est à la parité. C'est un chiffre rond, certes, ce n'est pas vraiment un niveau technique. Mais si l'euro-dollar devait basculer sous la parité, c'est-à-dire sous 1 euro égale 1 dollar US, derrière la cible, c'est 0,90 dollars. Et là aussi, de quoi s'agit-il? C'est, rappelez-vous, le 1er janvier 2002, le jour où l'euro est devenu monnaie légale pour 12 pays membres de l'Union européenne. C'était 0,90 dollars le 1er janvier 2002. Dans ce cas de figure, si l'euro devait basculer sous la parité et accélérer davantage à la baisse, le cours du Bitcoin encaisserait cette force du dollar américain et à ce moment-là poursuivrait sa tendance baissière en brisant les 19 000 dollars et en rejoignant les 15 000 dollars. Après, il y a d'autres éléments en termes de corrélation. Moi, je trouve que le marché action tient bien quand même. Alors voilà, moi, j'ai pas la réponse, hein, cette phase latérale entre 19 et 22. Est-ce que elle préfigure la poursuite de la baisse? C'est vrai qu'en chartisme, en pure analyse technique, c'est une phase classique de pause avant poursuite de la tendance principale. Et cette tendance principale, eh bien, il faut l'admettre, elle est baissière depuis novembre dernier. Mais tout de même, il y a une certaine résilience. Et puis, je regarde aujourd'hui l'environnement des alts, les altcoins. Ça tient quand même bien. Elle continue de surperformer le BTC. Donc voilà, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Phase latérale de 3000 dollars sur le BTC USD. Il faut en sortir pour la suite de la tendance.
Xavier, votre regard, comment sortir de ce range dans lequel le Bitcoin, l'Ether aussi, semble rester rembourbé pour l'instant?
Oui, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Vincent. C'est que moi, je trouve que le marché quand même globalement des cryptos, alors qui est toujours plutôt corrélé au marché traditionnel, semble relativement apaisé depuis 3 semaines. Alors, toute chose étant relative sur le marché des cryptos, puisque c'est quand même très très volatile. La semaine dernière, on a quand même pris 20% sur le Bitcoin, quasiment 30% de hausse sur l'Ether. Mais en fait, ça, sur le marché des cryptos, ce n'est pas significatif. C'est pas suffisant pour rompre une dynamique de marché qui est toujours effectivement craintive. Donc, 22 000 dollars, effectivement, tout le monde l'a vu, c'est les plus hauts de la fin du mois de juin. C'est le seuil sur lequel, finalement, on a échoué ce dimanche et ce week-end. Ce seuil technique sur l'Ether, j'arrondis également, comme Vincent, autour des 1300 dollars, tant qu'on ne passe pas pour le moment ces niveaux-là, dans une optique de court terme. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique craintive. Il faudra passer ces niveaux-là pour avoir un nouveau souffle, un nouveau départ. Alors, vous avez parlé effectivement du dollar. Ça fait un parti des points clés, en fait, pour que le marché retrouve un second souffle et qu'il soit moins craintif, moins larvé, j'ai envie de dire. Donc, c'est déjà être aidé par les marchés traditionnels qui, eux-mêmes, ont besoin de catalyseurs. Et ça viendra pas seul. Donc, déjà, un dollar américain moins fort, parce que ça montrerait déjà une volonté des investisseurs de revenir plus fermement sur les actifs risqués. Ça sera le cas que lorsque la macroéconomie nous donnera, ça tombe bien puisque demain, 14h30, on a rendez-vous avec l'inflation aux États-Unis au mois de juin qui est attendue à plus 1,1%. En espérant que ce soit donc inférieur aux attentes pour que du coup ça nous donne un souffle et une respiration sur le marché des cryptos. Les marchés également veulent de la visibilité, même quand ça fait mal, hein, d'ailleurs, même dans ils ne veulent surtout pas d'incertitude, et c'est toute la différence qu'on a entre les banques centrales, réserve fédérale américaine et banque centrale européenne. On a les publications d'entreprises qui vont arriver, donc il faudra cette rupture technique et psychologique. Plus globalement, ça nous donne les 1000 milliards de dollars de capitalisation totale sur l'ensemble du marché des cryptos, repasser ce cap-là psychologique pour pouvoir changer d'ambiance. En attendant, on essaye de faire de l'intraday. Par exemple, ce matin, on a vu cette réaction technique à très très court terme sur les 19 500 dollars sur le Bitcoin. Donc, on a payé un petit peu au-dessus. On va essayer d'aller chercher 20 400, 20 800. J'en doute très fortement quand même avant demain, à 14h30, l'inflation aux États-Unis. Effectivement, Vincent l'a dit aussi, il y a quand même quelques altcoins qui se détachent. Nous, on aime bien, par exemple, en ce moment, les fortes. Il y a Matic, par exemple, ou QNT, qui est très entouré et qui a passé, elle, ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, qui est en tendance haussière à court terme. Il y en a quand même quelques-unes. Ou alors SNX, par exemple, qui est très volatile ces dernières semaines. Donc, pour le moment, c'est calme. Pas de nouveautés techniques tant qu'on passe pas les 22 000 et 1 300 dollars sur l'Ether. 1000 milliards de capitalisation totale, une petite poignée de crypto qui se détache. Donc pour le moment, c'est léger, mais pas d'initiative du marché, a priori, avant demain, 14h30.
Merci. En effet, ce chiffre d'inflation attendu aux États-Unis. Xavier Fenot, Interactive Trading, Vincent Gann, analyste technique indépendant, Lilian Liaga et William O'Rourke, toujours à nos côtés en plateau, le plateau du club BFM Crypto. Lilian, l'hiver crypto donc se poursuit. Et ça a des implications pour une bonne partie du Web3. Sur les NFT, par exemple, les volumes d'échange de NFT se retrouvent sur un plus bas annuel. Qu'est-ce que ça nous dit de ce marché des NFT, de son potentiel et de l'avenir qui l'attend ?
En effet, donc comme vous l'avez expliqué, le marché des NFT est dans une période assez creuse et ça se voit avec l'un des principaux indicateurs, à savoir les volumes de transactions sur les places de marché qui permettent d'acheter et de vendre des NFT. Et justement, sur le mois de juin, on a imprimé le pire mois de l'année et même depuis l'été 2021 avec seulement 1 milliard de dollars de volume de transactions sur ces places de marché, contre à peu près 16 milliards de dollars en janvier dernier, donc au pic de 2022. Et si on veut prendre une comparaison un petit peu plus rationnelle, en mai dernier, on avait quand même 4 milliards de dollars de volume de transactions, donc ça fait à peu près moins 75% en l'espace d'un mois. Donc oui, le marché des NFT est à la baisse et dans un certain creux. Est-ce que ça veut dire que les NFT vont mourir, vont disparaître? Parce que c'est ce qu'on peut lire un petit peu partout sur les réseaux sociaux ou sur certains médias. Pour moi, la réponse, elle est bien évidemment non, parce qu'il faut dissocier le marché des NFT, l'état actuel du marché des NFT et cette technologie des NFT et tout ce qu'elle peut représenter. D'un côté, on a une technologie qui est extrêmement prometteuse, qui pourra peut-être révolutionner certaines industries, mais c'est un processus qui prend beaucoup de temps et on le voit, ça fait peut-être 2 ans que les NFT sont sous la lumière et pourtant, ça fait que quelques semaines qu'on entend certaines entreprises qui commencent à proposer les NFT à leurs clients. Et vous en parliez justement hier sur le plateau de BFM Crypto avec le groupe Casino qui propose des NFT à ses clients, ou encore certains événements, certains concerts comme celui d'Ed Sheeran dont la billetterie était basée sur la technologie des NFT. Et d'un autre côté, on a l'état actuel du marché des NFT où en fait majoritairement le marché est composé de collectibles, donc ces fameuses collections un peu à l'image des cartes à collectionner avec des raretés différentes, où on spécule justement sur la rareté de ces NFT ou sur l'engouement autour de ces collections. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de tous les cas d'usage que peuvent offrir les NFT. Donc voilà, c'est ça ce sur quoi je souhaitais insister, justement, la différence entre ces deux...
Oui, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les volumes sur les NFT sont au plus bas de l'année. Ça ne veut pas dire que les NFT sont morts ou qu'ils n'ont plus d'avenir. Ça permet peut-être au contraire de séparer le bon grain de l'ivraie.
Ça permettra en tout cas ce ralentissement de l'activité, d'épurer un peu le marché, de faire sortir certains projets qui avaient peu ou pas de cas d'usage et de voir naître d'autres projets plus intéressant.
On continue de suivre pendant ce temps les tribulations de Three Arrows Capital et là ça devient franchement un mauvais feuilleton. Les fondateurs de Three Arrows Capital, le plus gros ou le gros domino de la crypto tombé il y a quelques semaines, les fondateurs donc refusent de coopérer, ils ont même disparu, ils se sont volatilisés, ils sont désormais introuvables.
C'est ça, alors c'est l'affaire qui nous anime depuis plusieurs semaines, comme vous l'expliquiez. Three Arrows Capital, ce fonds d'investissement singapourien qui a été très récemment mis en liquidation pour justement mauvaise gestion pendant ce bear market et qui a entraîné dans sa chute plusieurs entreprises d'ailleurs, notamment Voyageur Digital, qui est une plateforme de lending centralisée qui avait prêté un petit peu plus de 15 000 bitcoins à 3 AC et à peu près 350 millions d'USDC qui n'ont jamais été remboursés, évidemment, et donc qui s'est retrouvé dans l'obligation de mettre la clé sous la porte. Et ça concerne aussi d'autres entreprises, BlockFi, Genesis Trading et autres entreprises qui étaient aussi exposées à ce fonds 3AC. Et donc, évidemment, quand on a de telles sommes en jeu, eh bien, les entreprises mettent leurs équipes juridiques sur l'affaire. Et là, c'est là que ça se corse pour 3AC, puisque les avocats des différents créanciers ont découvert que, d'abord, les locaux de 3AC à Singapour ont été vidés, tout simplement abandonnés. Et que, d'un autre côté, les deux cofondateurs sont partis, ils se sont évaporés. Donc là, aujourd'hui, on a une audience qui se tient à New York où les différents avocats vont se rencontrer pour essayer d'éclaircir cette affaire. Donc on en saura plus dans les prochains jours, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cette affaire continue d'impacter de manière assez négative le marché.
Three Arrows Capital, il y a aussi Celsius, bien sûr, l'un des dominos aussi qui ont fait vaciller ce monde crypto il y a quelques semaines. On a cette question d'un auditeur, elle est pour vous, William, cette question. William O'Rourke, donc pour Orwell Avocat. Mathis, Celsius, nous demande Mathis, a-t-il le droit de bloquer les fonds de ses utilisateurs et d'utiliser les fonds en cas de faillite?
C'est une question qui revient beaucoup et la réponse elle va pas forcément être très optimiste. Je suis désolé, je ne vais pas remonter l'ambiance sur ce plateau.
Réenchanter les.
Non, c'est-à-dire que aujourd'hui Celsius, surtout si vous êtes un utilisateur français par exemple, c'est une société qui n'est pas régulée. Et donc en fait la seule règle applicable c'est en fait ce qui est prévu dans les conditions générales. Les conditions générales de Celsius, je me suis permis de les consulter rapidement avant de venir ici. Elles sont assez lacunaires, mais elles prévoient en effet des pouvoirs assez importants pour la société, et notamment celle de bloquer les fonds. Je parle vraiment sur la partie blocage des fonds. C'est quelque chose qui, si Celsius était régulé, il y aurait eu des. C'est quelque chose qui est possible dans le secteur financier. Hein. Il y a des possibilités de bloquer les fonds en situation d'urgence, mais quand il y a un régulateur et quand il y a de la réglementation, il y a un contrôle et il y a surtout. Et moi, c'est ça qui me choque le plus avec Celsius, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas, il y a aucune transparence en fait. Ils ont bloqué les fonds, ils disent pas ce qui se passe. Et voilà. Alors que normalement, s'ils étaient régulés en France ou ailleurs, le régulateur pourrait leur demander des explications et éventuellement débloquer la situation. Sur l'utilisation des fonds en cas de faillite, là c'est une question qui est extrêmement compliquée parce qu'en réalité elle dépend également de la juridiction. En principe c'est non, mais il peut y avoir des exceptions et j'ai bien peur que dans Celsius, vu qu'on était quand même sur un produit d'investissement, il y avait d'une certaine manière, on confiait ses fonds à Celsius et donc il y a quand même une probabilité assez importante que certaines personnes ne revoient jamais la couleur de leur crypto.
Bien, vous aurez remonté le moral de nos fidèles du club BFM Crypto. Cette autre question du coup d'un auditeur, il nous demande si une nouvelle loi serait nécessaire pour encadrer beaucoup plus largement les abus dans le métavers. Est-ce qu'il faudrait une nouvelle loi?
Bah, déjà, un point préliminaire, c'est que le métaverse, je pense qu'on peut en parler sur ce plateau parce que, en fait, c'est un concept qui est assez ancien et en réalité, Fortnite est un métaverse sans crypto. Mais le métaverse est vraiment entré sous les feux de la rampe grâce aux cryptos et notamment aux NFT qui permettent, par exemple, d'acheter des parcelles du métaverse, notamment auprès de métaverses français ou en tout cas francophiles comme Sandbox. La réponse à la question de savoir si une nouvelle loi est nécessaire, elle est non et à double titre. La première, c'est que la loi existante, elle est évidemment applicable à ce nouvel endroit qui est le métaverse. Vous pouvez appliquer le code pénal que vous soyez en ligne, hors ligne ou dans un métaverse. Donc là-dessus, moi, c'est quelque chose. Je dis attention, c'est pas parce que c'est nouveau qu'il faut forcément créer une nouvelle loi. Et il faut pas oublier un point qui va être très intéressant à observer et pour le coup qui va avoir un effet très concret pour les utilisateurs du métaverse. C'est le fait que les services qui proposent ces métaverses, à l'image des réseaux sociaux, vont eux-mêmes créer des règles contractuelles, des chartes de modération et vont être obligés de modérer ce qui se passe sur leur métaverse. Ils vont être obligés, non pas tant parce qu'ils vont avoir des obligations légales, mais parce que c'est une question de réputation et ça permettra de garder les grosses sociétés françaises, notamment qui aujourd'hui investissent dans le métaverse, françaises ou étrangères. Ces sociétés-là, elles ne veulent pas être mêlées à ces scandales. Et donc si ces métaverses veulent les garder, il va falloir faire la police, quoi.
Clairement. Et Aude aussi nous écrit, elle a entendu parler de la travel rule crypto. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement pour les utilisateurs dans l'univers crypto?
Alors, c'est un sujet très technique de la part d'Aude, mais c'est un sujet qui a aujourd'hui, c'est en réalité la news juridique la plus importante de l'année. La travel rule, enfin en tout cas celle qui a le potentiellement, selon moi, le plus d'effet.
C'est là que vous allez réenchanter les choses, je le sens, William.
Oui et non. Moi, je suis
un passeur.
C'est ça. Je suis un passeur d'informations juridiques. C'est parfois une bonne nouvelle, mais on va tâcher de rester juridique. La travel rule, c'est un système qui, sur le papier, est très bien. C'est qu'en fait, quand vous avez deux prestataires qui exécutent une transaction, donc d'un utilisateur à un autre, elles doivent s'échanger des informations sur l'expéditeur et le destinataire. C'est ce qui se passe quand on fait un virement bancaire. Les banques communiquent des informations entre nous. Ça, le secteur crypto, à une échéance de 18 mois, 24 mois, va y être assujetti. Entre prestataires, ça pose pas tellement de questions. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est que le Parlement européen et la Commission européenne ont décidé d'appliquer cette règle, y compris quand vous faites une transaction depuis un prestataire vers un wallet personnel. Et là, c'est-à-dire que très concrètement, j'ai un compte sur Coinbase, je fais une transaction sur le wallet Ledger de Lilian. Coinbase va devoir identifier Lilian.
Lilian vous dit merci à l'instant.
Lilian me dit merci, okay. Il est très poli.
Il faudra identifier les liens, forcément.
Et là, trois questions, trois problèmes. Comment on fait ? Est-ce que Lilian va devoir devenir client de Coinbase ? Ça risque de créer des monopoles, en fait. Et ça risque de créer, en réalité, un système fermé comme à l'image du système bancaire, ce qui est quand même totalement contradictoire avec la crypto. Ça pose un problème juridique en termes de confidentialité et de liberté d'utiliser ses finances un peu comme on le souhaite, même si, évidemment, il faut des règles de transparence. Mais là, vraiment, le curseur a été mis très haut. Et ça pose un problème, surtout économique, de compétitivité, en fait, de l'Europe vis-à-vis de concurrents américains ou asiatiques qui, eux, n'auront pas des règles aussi contraignantes. Donc voilà, aujourd'hui on est dans l'inconnu, je précise. Le principe a été voté. On verra comment c'est implémenté, mais c'est, encore une fois, il y a un potentiel que ça crée un espèce de système fermé en Europe sur les cryptos qui est assez important.
Mais il y a un risque donc que cela dissuade beaucoup d'utilisateurs d'aller placer leurs cryptos sur des wallets froids, ah bah oui. Comme on dit. Oui, ça va les dissuader d'y aller. On perdra de l'intérêt à choisir d'investir via des wallets.
Bah oui, ça risque de créer des barrières pour investir dans la DeFi, ça risque de créer des barrières pour placer des fonds sur des wallets Ledger.
Mais les wallets continueront d'offrir plus de sécurité quand même, moindre risque de piratage que sur des exchanges plus centralisés, etc., etc. Ces avantages-là, les wallets les conserveront malgré tout.
Oui, les conserveront, mais c'est-à-dire que la question, c'est que de toute façon, pour acheter des cryptos, vous devez passer par une plateforme centralisée et régulée. Et la question, ça va être comment vous faites sortir ces cryptos de ces plateformes-là. C'est le principe de cette réglementation, hein. Mais je veux dire, aujourd'hui, ça pose beaucoup de questions. Alors, je vais finir sur une bonne nouvelle. En tout cas, une note positive, c'est que ce type de réglementation, il y a en fait énormément de détails et donc les aspects pratiques sont réglés ultérieurement. Donc, on aura plus d'informations et peut-être qu'il y aura une happy end. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez...
Vous espérez que, d'un point de vue pratique, ce soit inapplicable. C'est ce que vous êtes en train de
dire. Pas inapplicable, mais que ce soit appliqué avec pragmatisme.
C'est ça. Bon, en tout cas, les ponts continuent de se bâtir entre la finance traditionnelle et cet univers crypto qui tente de se construire lui aussi. On voit une banque américaine, Lilian, pas la plus connue, mais quand même, une banque américaine qui choisit de faire confiance à la finance décentralisée. Cette banque traditionnelle, donc, a même choisi de contracter une dette sur la finance décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, Lilian?
Exactement, c'est Huntingdon Valley Bank, HVB, donc désolé si je prononce mal, en effet c'est pas la banque la plus connue, mais qui a contracté un emprunt auprès du protocole de finance décentralisée MakerDAO, un emprunt de 100 millions de dollars. Alors c'est assez intéressant et assez inédit pour deux raisons. D'abord parce que, comme vous l'expliquez, c'est assez rare pour le souligner, mais on a un pont qui s'est créé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Et surtout dans ce sens-là, c'est l'une des premières fois qu'on a une banque qui va emprunter auprès d'un protocole de finance décentralisée. C'était déjà arrivé par le passé aussi avec MakerDAO, mais en tout cas, voilà, c'est assez rare pour le souligner. Et dans un second temps, c'est aussi inédit et assez intéressant dans la forme que ça va prendre, parce que en finance décentralisée, quand on emprunte, normalement on dépose des crypto-monnaies en tant que collatéral. On emprunte d'autres crypto-monnaies et ce collatéral sert de garantie à notre emprunt. Ici, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. En fait, HVB va pouvoir piocher dans ce coffre de 100 millions de dollars que met à disposition MakerDAO pour pouvoir investir dans des sociétés. Et comme c'est une banque, elle commercialise des crédits. Et donc les dettes finalement des entreprises dans lesquelles elle investit. Et ce sont ces crédits qui vont être utilisés comme collatéral dans cet emprunt dans la finance décentralisée. Donc là, c'est une boucle assez complexe, c'est assez inédit. Et ça permettra finalement, comment expliquer, c'est pas vraiment une relation emprunteur-prêteur, c'est plutôt une relation de collaboration entre MakerDAO et cette banque. puisque MakerDAO met à disposition des fonds et s'expose finalement aux activités de la banque. Donc voilà, c'est assez nouveau et ça montre encore une fois cette barrière finalement entre la finance tradie et la finance décentralisée qui est en train de mincir petit à petit.
C'est ça, j'allais dire, barrière en train de sauter. Non, elle ne saute pas, on ne peut pas le dire. Mais on voit plus en plus de porosité.
Voilà, tout à fait.
Et des ponts de plus en plus nombreux. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Donc, l'univers de la crypto chaque jour, le club BFM Crypto. Lilian Aliaga, rédacteur pour Cryptost. William O'Rourke, associé, cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Merci messieurs.
Merci
d'être passés sur notre plateau. Les marchés financiers toujours hésitants, on va se reconnecter à la séance du jour, bien sûr, dans un instant sur BFM Business.